c'est pas moi qui l'ai choisi, hein, c'est vraiment une demande de nos responsables. Et puis, parce que moi, j'aurais continué sur la grâce sans problème. Hein. Mais, alors, ils m'ont donné un thème, et puis après, j'ai commencé à étudier ça, et j'ai dit, ah, Seigneur, c'est tellement, tellement sur le cœur de Dieu, tellement précieux pour lui, tellement profond qu'on y va vraiment en tremblant. Hein. D'ailleurs, oui, en tremblant vraiment, d'ailleurs. Et voilà. Et je voudrais dire aussi que je vais parler de Josué, mais c'est nos c'est aussi pour les visiteurs, parce que chaque chrétien est appelé à être Josué. Mais Josué, c'est... chaque chrétien a un appel Josué. Donc ça, c'est pour nos visiteurs. Chaque chrétien a un appel Josué. Mais nous, il se trouve que le Seigneur nous a donné un nom en tant que corps. Donc on est là, voilà, tous là. Et on incorpore tous ceux qui sont en déplacement, comme Luc et Manu et tous les autres. On les met avec. Donc le Seigneur nous a donné un nom. On n'a pas choisi, hein. Le Seigneur a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est pas chacun de vous qui avez choisi d'être dans ce corps, c'est moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Et il l'a dit à chacun de nous, mais aussi collectivement, il les a mis ensemble, là on peut se regarder les uns et les autres, oui, c'est pas du tout un hasard qu'on s'est mis ensemble les uns avec les autres, mis ensemble pour porter du fruit, pour être établi, pour aller. C'est Jésus souverainement qui a fait ce travail de nous mettre ensemble, voilà. Donc, on est identité Josué. Alors, Josué, c'est quelque chose qui s'appelait Josué quand même. Josué, d'abord, comme on nous a très bien expliqué, Luc, c'est quelqu'un qui demeure dans le temple. Hein? Quelqu'un qui demeure dans le temple. Alors là, déjà, c'est un grand appel. Alors, je vous explique. Moi, je m'appelle Anne, j'appartiens à Josué. Et Anne, dans la Bible, c'est quelqu'un, la prophétesse, vous savez, dans les évangiles de Luc, elle était tout le temps dans le temple. 84 ans, tout le temps dans le temple. Et puis dans ma petite tête, pendant des années, je me dis quand même, Anne, c'est pas trop attractif de passer sa vie entre quatre murs, quoi. moi, ça me plairait pas trop à 84 ans de passer ma vie entre quatre murs dans le temple. Mais j'avais une très mauvaise idée du temple. Le temple, c'est la présence de Dieu, vous êtes d'accord? Dans le temple, on l'emmène partout, avec nous, puisqu'on est le temple. Hein, vous êtes d'accord? Donc on peut très bien se promener en pleine nature, aller sur les très hautes montagnes, aller voyager partout dans le monde et être tout le temps dans le temple. Donc le grand appel, le grand défi déjà de Josué, de chacun de nous, c'est de demeurer dans le temple. Est-ce qu'on peut demeurer dans le temple en enseignant les troisièmes, les secondes? Est-ce qu'on peut demeurer dans le temple en faisant de la compta ou est-ce qu'en faisant de l'électricité? Est-ce qu'on peut demeurer dans le temple? Le Seigneur dit oui, bien sûr, vous pouvez demeurer dans le temple. C'est déjà un grand défi. Ou en étant sur les bancs d'école, au Kassler ou au DEC, est-ce qu'on peut demeurer dans le temple? Le Seigneur dit oui, sans problème. Notre appel, c'est de demeurer tout le temps dans le temple. Donc, c'est bon. Josué, donc, il demeurait dans le temple. Et puis, bien sûr, vous savez très bien que c'était un grand guerrier devant l'Éternel, l'héritage de Moïse. Ça me rappelle, c'était quoi le message de Luc de la semaine dernière, là? C'était les héritages, la filiation, vous savez. Donc, Josué, il a eu l'héritage de Moïse. Et puis, il a pris la suite, un digne héritier, et puis il a conquis plein de territoires. Donc nous, en tant qu'Église, on a un appel à conquérir des territoires. Ça, on le sait, hein, on le sait. Mais est-ce que vous savez que le livre de Josué dans l'Ancien Testament a son pendant dans le Nouveau? Vous savez ça? C'est les commentateurs, ils le disent, hein, je l'invente pas. Hein. Il y a un livre spécifiquement pour nous, pour cette église Josué, parce que c'est le pendant dans la Nouvelle Alliance de Josué dans l'Ancienne Alliance. N'en voyez pas. Personne ne sait? Non? Comment? Voilà, exactement. Bravo, Marc-Christine. Bon point. Oui, Éphésiens, l'Épître aux Éphésiens. Parce que c'est un livre de conquête spirituelle, c'est un livre d'héritage qui nous montre par l'Esprit tout notre héritage, et on doit s'en emparer. Alors, Éphésiens, c'est énorme, c'est glorieux, c'est fabuleux. Rien que la semaine dernière, je donnais le verset à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons. Rien que ça, c'est énorme, quoi. C'est un territoire énorme. Et puis, il y a aussi ce verset extraordinaire, vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est-à-dire on est en haut. C'est comme l'aigle français, là, on est vraiment dans les hauteurs, c'est notre héritage, on est appelé à être en haut, à être élevé, à être assis dans le repos, dans les lieux célestes, en haut. Si vous voulez, c'est notre dimension. C'est une dimension que le Seigneur nous dit, vous y arriverez, je vous appelle à y aller, et vous irez ensemble dans cette dimension-là. Alors, on est un peu inquiet quand même, un peu étonné, un peu, c'est quoi cette dimension nouvelle? Ben oui, on va y aller ensemble. En tant que corps, on va aller dans cette nouvelle dimension et on va prendre le territoire. Et puis derrière, tout le monde suit, vous voyez? Donc, c'est un très grand appel, Josué. Et puis, donc, Éphésiens. Éphésiens, c'est spécialement pour nous. Alors, Éphésiens, il y a quelque chose qui... Dans Éphésiens, au début d'Éphésiens, vous avez Éphésiens 2. Alors, je sais pas... Ah oui, il n'y a personne aux paroles, si? Déborah, tu peux nous mettre des versets? Alors, Éphésiens 2, et quand j'avais la thématique, je ne vous donne pas tout de suite la thématique, parce que vous verrez après. Éphésiens 2, et vous savez, quand le Saint-Esprit fait un zoom, un rayon laser, un éclairage fort sur quelque chose... Alors, Éphésiens 2, voilà, à partir du verset 11. Tu le mets ? Non. Donc, il nous parle de nous, les païens. On était, on n'avait pas du tout d'héritage. Hein. Vous étiez privés du droit de cité, étrangers aux alliances, sans espérance. Hein, vous l'avez, voilà, vous pouvez le lire. Donc on était sans Christ, privés de droit de cité, étrangers aux alliances, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais donc absolument pas d'héritage, c'était le néant. Mais maintenant en Christ Jésus, vous qui êtes autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. C'est lui notre paix, lui qui des deux, alors c'est qui les deux? Voilà, les juifs et les païens. N'en a fait qu'un. En détruisant le mur de séparation, l'inimitié, il a, dans sa chair, vous avez quelle traduction, vous ? Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un à l'autre, tous deux, en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. On va peut-être s'arrêter là. Et là, vous avez un rêve de Dieu. C'est un rêve, et c'est plus qu'un rêve, c'est un projet de Dieu, quelque chose de très fort. Il a d'un côté ses enfants d'Israël, là, les Juifs, de l'autre côté les païens. Il y a un énorme mur d'inimitié, et Jésus est venu annuler ce mur. Alors, bon... On va regarder un peu ça, parce que, si vous voulez, ça c'est une clé, c'est une des multiples clés, mais c'est une clé pour que l'Église, avec un grand E, devienne ce que le Seigneur veut qu'elle soit, et ce qui est dit un peu plus loin dans Éphésiens, c'est-à-dire une maturité, jusqu'à ce qu'on soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, Éphésiens 4, qu'on arrive à la stature parfaite de Christ, qu'on arrive à la connaissance du Fils de Dieu, tout ça. Toute cette stature, toute cette coordination du corps, tout ce qui est magnifiquement déployé dans Éphésiens, une des clés, c'est ça. Un seul homme nouveau entre juifs et non-juifs. Enfin, juif et gentil. Un seul homme nouveau. C'est une clé. Et le Seigneur met très fortement, vous savez que ce soir, c'est Rosh Hashanah, première fête biblique du septième mois. Il y a un élément très fort, une clé là-dedans. Alors, on va reprendre la traduction, parce que bien sûr, elle n'est pas bonne du tout. Traduction pas bonne du tout. On a dit, déjà, on dit, vous avez que, tu peux reprendre le verset 15. Verset 15, il dit « Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. » Ça veut dire quoi ce bazar? Vous voyez ce que je veux dire? La loi des ordonnances dans ses prescriptions, c'est quoi ce truc? Vous ne trouvez pas que ce n'est pas clair? Moi, en tant que prof de français, je trouve que c'est imbuvable. C'est quoi ce machin? Bon. Jésus, il anéantit la loi. Il abolit la loi, il fait quoi avec la loi? D'abord, c'est quoi la loi? Déjà, pour commencer, c'est quoi la loi? Ah, alors en grec, c'est nomos. Ok, nomos. Nomos, c'est la Torah, pour les juifs, c'est la Torah. Est-ce que la Torah, elle est détruite par Jésus? Alors là, très mauvaise traduction. Romains 10, 4, on a Jésus est la fin de la loi. Telos en grec, hein. Bah, télos, désolé, ça veut dire Jésus est l'aboutissement, le but de la loi. Le but de la Torah, c'est Jésus. Il n'a pas du tout détruit la Torah, pas du tout du tout. Jésus est le but de la Torah. Et tout dans la Torah, alors la Torah, tout le monde sait ce que c'est, hein, les cinq premiers livres de la Bible, la Pentateuque en grec, Torah pour les juifs, c'est les cinq premiers livres. Tout dans la Torah parle de Jésus. Jésus est le but de la loi, tout parle de lui. Alors bon, on voulait peut-être des preuves, parce que bon, quand on lit Genèse 1, on ne trouve pas trop qu'on parle de Jésus. Alors je vais vous donner des choses. Là, il faut dire qu'en lycée, Daniel, on étudie la Torah en ce moment. Et puis, d'ailleurs, c'est un gros défi. Et puis, si tout le monde veut, enfin, j'embauche du monde pour prier parce que c'est un très gros défi. Donc, on étudie la Torah. Genèse 1, verset 1, premier mot. Bereshit. Tout le monde connaît Bereshit, au commencement. Et puis, en plus, Jésus, il se cache. C'est ça qui est bien. Il se cache. Alors, on le trouve. Dans Bereshit, il y a Jésus. Ah ouais, alors, il est où, Jésus, dans Bereshit? Bereshit, au commencement, il y a Jésus. Eh bien oui, parce que Bereshit, ça commence par Ber. Vous avez le bêta et puis une autre lettre. Ensemble, ça fait bar. Bar, en hébreu, ça veut dire fils. Ça veut dire aussi grain de blé. Vous voyez le truc? Bereshit, grain de blé. Jésus, enfin fils. Quel est le dernier mot de la Nouvelle Alliance? Grec. Pantone. Tous. Vous voyez l'ampleur. Le fils, le grain de blé est mort pour que, en lui, nous soyons tous des fils. C'est glorieux, hein? Oh là 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 là, c'est fabuleux. Oh, vous trouvez un diamant comme ça? Ah ouais, super. Bon, c'est bien. Après, vous continuez à étudier Genèse, la Torah avec les lycéens, là. Genèse 6, l'Arche de Noé. L'Arche de Noé, tout le monde connaît l'Arche de Noé. Où est caché Jésus dans l'Arche de Noé? Bien sûr, il y en a plein, c'est une symbolique, on est tous d'accord. L'Arche de Noé, tout le monde sait qu'elle a été recouverte de poids. P-O-I-X, de poids. Alors, recouverte de poids, la poix, c'est ce qui empêche l'eau de rentrer. Ça protégeait l'arche, ça empêche l'eau de rentrer. Hein. Alors, la poix, c'est un mot hébreu, kofar. Vous regardez sur un super instrument biblique, tout le monde, même sans savoir ni l'hébreu ni le grec, peut aller sur Internet, cliquer lexique-biblique.com, faites des Strongs, second Strongs, vous cliquez sur poix, P-O-X, et vous avez tous les mots, les éléments où le mot poix POX, enfin le coffer hébreu, est employé. Et là, vous découvrez, avec stupeur, étonnement, admiration et stupéfaction, que coffer, ça veut dire quoi? La rançon. La rançon. Les eaux du jugement n'ont pas pu maîtriser dans l'arche parce qu'il y avait la rançon. Vous imaginez? C'est impressionnant. Et puis, bon, je vous donne des petits exemples comme ça, mais c'est partout pareil. Et puis là, je ne vous parle que des lettres, mais il y a les chiffres aussi. Parce que vous savez que chaque valeur, chaque mot hébreu a une valeur numérique, chaque lettre hébreu a une valeur numérique. Et puis, les mots grecs aussi, d'ailleurs, chaque mot grec. Alors, le positionnement de chaque lettre, de chaque mot, tout ça, c'est absolument prévu, quoi. Par exemple, Yesus en grec, valeur numérique, 888. L'homme nouveau, vous savez, trois fois l'homme nouveau, enfin, c'est grandiose, quoi. Le commencement, enfin, l'homme nouveau, sa résurrection et tout ça. Enfin, tout c'est impressionnant, c'est sans fin. J'avais donné, ben, je ne vous dirai pas si vous devez chercher, le 555e mot de la Bible, c'est quoi? 555, c'est la grâce, c'est trois fois la grâce. Qu'est-ce que c'est comme mot? Je ne vous le dis pas. Ben, pour vous dire que c'est incroyable cette Bible, c'est incroyable. Donc ça, c'est la Torah. Enfin, je vous donne des petits exemples de là, oui, merci, mais il faut que je parle doucement. La Torah, c'est fabuleux. C'est fabuleux, la Torah. C'est plein de trésors cachés. Après, vous avez, alors, bien sûr que non, Jésus n'est pas venu abolir la Torah. Vous voyez, tout dans la Bible, dans la Torah, parle de lui. Et alors, vous savez, cette merveilleuse histoire de Luc, vous savez, à la fin, les disciples d'Emmaüs, ils étaient complètement découragés, peut-être comme certains parmi nous, hein, découragés, déprimés, déboussolés, désemparés, et ils rentraient vers Emmaüs. Et puis, qu'est-ce que fait Jésus? Il leur explique les Écritures. Alors, en grec, il y a un mot très spécial, c'est expliquer, c'est-à-dire il leur rouvre les Écritures, c'est-à-dire, alors c'est un mot qui veut dire aussi enlever un bouchon, vous voyez, ou enlever les verrous d'une porte. C'est un mot très imagé en grec. Hein. Il enlève le bouchon, il enlève le verrou et oh, dis donc. Donc il leur ouvre les Écritures et c'est le même mot qui est traduit aussi pour ils ont ouvert les yeux au moment de la Sainte Cène, vous savez. Donc il leur ouvre les yeux, il leur ouvre les Écritures et on voit toutes ces merveilles et les disciples ont vu que tout parlait de lui. Ils ont même dit que notre cœur ne brûlait pas au-dedans de nous quand il nous expliquait les Écritures, quand il nous ouvrait les Écritures parce que tout parle de lui, tout. Et puis vous avez ce matin, Werner a parlé de Ésaïe 53, avec bien sûr qui parle de Jésus, et puis ça a déclenché la décision de l'eunuque. Donc dans la Bible, dans la Torah, absolument tout parle de Jésus, mais caché. Et puis, en plus, ça donne des facettes de Jésus qu'on ne connaît pas, nous, qui ne sont pas dans la Nouvelle Alliance. D'autres facettes, d'innombrables facettes, des trésors de facettes. Vous voyez, Jésus apparaît dans une splendeur, une grandeur, une complétude qui est extraordinaire. Donc, c'est fabuleux, quoi. Ça, c'est la Torah. Donc, cette traduction, elle est nulle. C'est pas... il n'est pas venu abolir la Torah. Alors, il a rendu, en fait, inactive. Alors, en grec, voilà. Il a rendu inactive, ton nomon ton entolon, ça parle de... Mais dans quelque chose de particulier, dans les dogmacines. Il a rendu inactive dogmacines. Alors, oui, tu peux remettre Éphésiens 2, 14, 15, là. Voilà. Il a dans sa chair, donc ce n'est pas annulé, c'est rendu inactive. Voilà, verset 15. Hein. Il a rendu inactive tout ce qui est à l'intérieur, par rapport à la loi, qui est, elle, source de vie. Hein. Il a rendu inactive les dogmas. Alors, les dogmas, c'est le mot grec dogma qui est utilisé. Les dogmas, c'est... Alors, par exemple, dans le contexte de l'Antiquité, c'était les décrets de Rome. Vous voyez, le recensement, c'est un dogma. On doit faire. C'est tout ce qui est règles et prescriptions de la loi de Moïse avec une idée de sévérité, de menace et de jugement. C'est pas la Torah, ça. Hein. C'est pas non plus les commandements de Dieu, parce que ça, c'est le mot ento... Enfin, un autre mot, entolai, ça, entolon, qui est utilisé. Donc, c'est les dogmas. C'est ceux-là qui ont été anéantis. Les dogmas. C'est ça qui a été fait. Toutes ces idées, ces prescriptions, ces ordonnances, et celles qui ont rajouté aussi les Juifs, hein, tout ça. Et le dogma, il est utilisé dans Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les dogmas nous condamnaient. Donc ça, c'est ça qui n'est pas bon. Par contre, la Torah, elle est très bonne, elle part de Jésus. Et bien sûr que les commandements de la Torah, les commandements s'aimer les uns les autres, tous les commandements, ils sont, c'est des sources de vie, vous voyez. Alors... Donc, vous voyez, on a comme quelque chose comme ce mur d'inimitié entre les Juifs et nous. Il y a un énorme mur, mais en ce moment, ce qui est incroyable, c'est qu'on est dans le Kairos, le temps particulier où Dieu est en train de détruire ce mur. Et il détruit ce mur, et il y a un verset juste après, il a dit, voilà, il a dit en détruisant l'inimitié. Alors le verbe détruire l'inimitié, le détruire en grec, c'est vraiment un terme fort, c'est tuer. C'est utilisé pour les meurtres, vous savez, carrément. Tuer, mettre à mort, enfin voilà, c'est très violent, hein, ce mot grec. Il tue l'inimitié parce qu'il veut les réconcilier. Alors on va regarder qu'est-ce que c'est que ce mur d'inimitié. Eh bien ce mur, il a été bâti depuis très 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 longtemps et il est des deux côtés. Il est des deux côtés. Alors on va voir... pour se rendre compte hein, de ce que c'est que ce mur, des deux côtés. Alors, du côté juif, ben, vous savez très bien que ceux qui ont persécuté les premiers apôtres, c'était les juifs. Ils étaient bien plus persécuteurs que les romains, vous savez. Hein. Les pharisiens, et puis même dans tous les actes des apôtres, vous voyez que les pires ennemis de Paul et de ses équipiers, c'était les juifs. C'est eux qui lui faisaient sans arrêt des problèmes et qui soulevaient les païens contre lui. Donc, les juifs ont été des grands, grands ennemis de la première église chrétienne, messianique. Et puis, donc, et puis après, ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que, alors ça c'est dit dans un petit livre, j'en ai quelques exemplaires, l'appel irrévocable qui est très bien, et qui montre ce mur. Donc il y a, voilà, de son côté, au 1er siècle après Jésus-Christ, la communauté juive approuve la position selon laquelle on ne peut pas être à la fois chrétien et juif. L'option juive messianique n'existe pas. Et au 1er siècle, à la rencontre des rabbins à Yavné en Israël, on compose une malédiction sur les hérétiques qui comprend les disciples de Yeshua. Ils ne peuvent pas rester debout pendant la lecture de cette malédiction. Les croyants juifs sont identifiés et chassés de la synagogue. Donc il y a eu un mur côté juif. Et puis aussi, il faut le dire, épître de Tite, tu peux nous mettre l'épître de Tite. Il y a une mise en garde très très sévère de l'apôtre Paul par rapport au judaïsme, et c'est dans la parole, il faut le savoir, ça fait partie des avertissements de la parole, épître de Tite, je le dis aussi parce qu'on est en plein dans des séductions diverses et variées à ce sujet. Donc Tite, tu l'as? Non. Alors Tite, je crois que c'est au chapitre 2, il met en garde contre... hop. Alors, Tite. Plus. Après, on fera l'autre côté du mur, hein. Mais ça, c'est le premier côté du mur. Alors, ça, je vais t'y noter. Voilà, Tite, non, c'est verset, c'est le chapitre 1, en fait, et le verset 13, à partir du verset 13, chapitre 1, verset 13. Donc, reprends sévèrement tes, bon, les, afin qu'ils aient une foi saine, qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Qui ne s'attache pas à des fables judaïques. Et c'est vrai que le judaïsme, il est plein de fables. Il faut le savoir. Par rapport à cette tentation de judéolatrie, là, le judaïsme, il est plein de fables et des commandements d'hommes qui sont porteurs de mort. C'est vrai, ça fait partie du mur, il faut le savoir. Donc ça, c'était côté juif. Le combat de Paul, c'était contre tout ce bazar judaïque, là. Et puis, bien sûr, il y a eu l'autre côté. Alors, le côté de l'Église. Il s'est passé quelque chose de terrible, c'est-à-dire qu'il y a eu un antisémitisme qui est venu à Rome. Alors bon, on sait l'origine, je crois que ça remonte à des descendants d'Ésaü qui sont allés sur Rome. En tout cas, très très rapidement, l'Église romaine a été infestée par l'antisémitisme. Et très rapidement, les pères de l'Église ont aussi pris position. Et ils ont déclaré que c'était une hérésie de suivre la tradition juive en Jésus. Cette déclaration canonisée au concile de Nicée, et réaffirmé dans l'histoire de l'Église jusqu'au milieu du 19e siècle. Quand un juif faisait profession de foi en Jésus, il était obligé de renoncer à son appartenance au peuple juif et à toutes les pratiques juives, il était obligé de prendre un nom chrétien, il était obligé de manger du porc. Donc c'est un péché très très grave. Les descendants de ceux qui avaient donné aux gentils, c'est-à-dire aux païens, la liberté de ne pas devenir juif dans la pratique juive, ces descendants même se voient interdire de rester dans leur appel et leur identité. Les Juifs sont le seul groupe ethnique dans toute l'histoire qui se voit refuser une église ethnique, puisqu'il est stipulé que le croyant juif n'est plus juif et qu'il doit s'assimiler complètement à d'autres groupes ethniques. C'est un péché gravissime. Et l'antisémitisme qui en a découlé est terrifiant. Vous savez, hein, les croisades, Luther les injuries, les croisiers tuent les Juifs, enfin, vous savez tout ça. Il y a un livre terrible, je ne l'ai pas lu parce qu'il y a des passages abominables, pour âme sensible c'est un peu dur, c'est « Nos mains sont tachées de sang », vous connaissez, hein. C'est un livre terrible, mais bon, voilà, c'est l'histoire d'Église. Vous voyez ce mur des deux côtés, il y a eu quelque chose de terrible. Et actuellement, dans la mentalité juive, quand un juif voit la croix, bah pour lui, c'est les pogroms, quoi. C'est les pogroms, c'est les croisés, c'est tout ça. Alors tout à l'heure, je cherchais la croix, c'est vrai qu'elle est bien cachée, bien planquée, mais c'est peut-être pas si mal que ça. Donc voilà, la croix, c'est ça pour un juif. Quand il entend le mot « église », bah, « église », c'est l'Inquisition, c'est tous ceux qui les ont pourchassés pendant des siècles, des siècles, des siècles, vous voyez. Comment un juif peut être attiré par l'église, puisque l'église leur a fait tellement de mal? C'est dans l'inconscient, dans l'histoire, toute leur histoire, vous voyez, c'est terrible. Alors là, la bonne nouvelle, Dieu est en train vraiment de traiter très sérieusement ce mur. Il y a un signe fort, figurez-vous, alors là, je ne voulais pas amener, parce qu'il ne m'appartient pas, il est à mon mari, je vous donne un scoop. Deuxième trimestre 2012, un livre est sorti. Un livre est sorti, édition Emmet, disponible à la CLC pour 30 euros. C'est le Nouveau Testament, un livre juif. Traduit en français, hein. Je répète, le Nouveau Testament, un livre juif. Alors là, si vous voulez avoir une vision renouvelée de votre Nouveau Testament, vous lisez ça. Alors d'abord, vous n'avez plus le mot croix. Oh, scandale! Non, c'est pas une trahison du grec, j'ai vérifié. Le mot grec storos, qui a donné croix dans nos versions françaises, là. Storos, on veut dire, premier sens, c'est un pieu de palissade. Un pieu de palissade. Deuxième sens, bah, un poteau d'exécution, et quand on mettait une traverse, évidemment, ça donnait une croix, vous voyez. Donc, comment ils ont traduit? Parce que je vous ai expliqué, pour les Juifs, c'est terrible, la croix. Eh bien, poteau d'exécution. La croix, ça devient le poteau d'exécution. L'Église, elle n'est pas traduite Église, hein. Église, c'est Ecclésia en grec. Ecclésia, ça veut dire assemblée. Donc, ils l'ont traduit par communauté messianique. Ah oui, c'est le Messie qui règne sur l'assemblée, quoi. Donc, communauté messianique, vous voyez. Jésus, évidemment, ce n'est pas Jésus, parce que Jésus, c'est pas Marie. Quand vous auriez été une petite souris du temps dans la maison de Nazareth, vous n'auriez jamais entendu Jésus, ni Jesus, ni Jesus. Vous auriez entendu Yeshua. Donc, c'est traduit Yeshua, etc., etc., vous voyez. Bon, je ne l'ai pas lu encore, c'est mon mari qui l'a acheté. Mais je vois un signe très fort, parce que ce Nouveau Testament, livre juif, eh bien, ça fait partie de ce mur d'inimitié qui est abaissé. Tout ce qui nous sépare les uns des autres, ça, le Seigneur, ça, voilà, c'est le temps où maintenant, il met à mort cette inimitié. Et c'est toute bénédiction pour nos frères juifs, parce qu'il n'y aura plus ces énormes blocages ancestraux qui les empêchent de venir à l'Église. Et c'est une énorme bénédiction pour nous aussi. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que les persécutions qui nous ont séparés les uns des autres. Il y a notre foutue mentalité gréco-romaine. Par exemple, la loi. La loi, pour nous, Français, on ne saute pas de joie. Vous voyez ce que je veux dire? On entend le mot « loi », non merci. La loi, taillot. Voilà, la loi, vous voyez ce que je veux dire, notre mentalité. Pour un juif, la Torah, mais c'est la joie. C'est la bénédiction, ils dansent avec la Torah, ils en font des... Véridiques, hein, ils en font des jouets en peluche de leur Torah. Vous voyez, nous, le code civil romain, on n'a jamais vu en jouet. Hein. Mais voyez ce que je veux dire, notre mentalité, elle est complètement déformée, pervertie, la Torah. Donc quand on, dans toutes nos versions secondes, on a la loi, c'est franchement pas attractif, quoi. Hein. C'est pour ça, dans le Nouveau Testament, ils mettent maintenant la Torah, c'est nettement mieux. Donc là, vous voyez déjà ça. Et puis aussi, attendez, des choses qui doivent hérisser les juifs, c'est dans certaines dénominations, vous savez très bien, il y a une mère de Dieu. Attends, pour un juif, c'est abominable, c'est du paganisme pur. On travaille la mythologie gréco-romaine avec les lycéens. La mère des dieux, il y en a pas mal, hein, il y a Cybèle, tout ça, c'est purement, directement tiré des paganismes gréco-romains, directement. Voilà. Et puis même la représentation, vous savez, une déesse avec un petit machin, un petit bébé à côté, c'est directement tiré de la mythologie gréco-romaine. Hein. Julie, tu confirmes. Vous voyez, ça n'a rien d'hébraïque, ça n'a rien de biblique. Alors les juifs, ne pensez pas si ça les repousse. On passe à une autre dénomination pour que tout le monde soit au même niveau. Chez une autre dénomination, la musique, c'est dangereux. Hein. Ouh là 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 là. D'abord, la musique, ça vient du mot muse, qui est une des divinités païennes qu'on présentait avec Apollon, dieu de la divination et de l'occultisme. Musique, oulala, dangereux. Hein. Donc il y a certaines dénominations, il n'y avait pas de musique du tout, que les chants, et encore, oui. Et puis les danses, alors n'en parlons pas, les danses, jamais, dans une église, danser. D'abord on reste tranquille, calme, on a un dieu jupitérien au fond de l'autel, sur le mont Parnasse, le mont Olympe, distance, hein. Mais ce n'est pas la mentalité biblique, ça. Ça, c'est gréco-romain, ça n'a rien de biblique. Les juifs, pour eux, Dieu, il est au milieu. La charte de l'Arche de l'Alliance a été en plein milieu du camp. Et Jésus, le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pendant 3 ans? Au milieu de 12 phénomènes, jour et nuit, à les supporter. Avec, il était Emmanuel, avec, au milieu, au centre, là. Enfin, il traînait avec eux. Tout le temps, quoi, tout le temps. Voyez ce que... Et puis nous, notre mentalité, c'est au fin fond de l'église, loin, il y avait des clôtures même qui se séparaient, enfin, des choses terribles, quoi. Et puis pas, surtout pas de danse, des chants, instruments de musique, je vous dis, dans certaines dominations, surtout pas. Mais comment un juif peut-il voir quelque chose de biblique là-dedans, vous voyez? Alors que lui, on était tous au mur de Shabbat il y a bientôt un an, au mur de Kotel, hein. Ah ben c'est la danse, hein, il y a de la joie, il y a des chants, et on tourne en rond, on fait des farandoles, enfin, c'est extraordinaire, quoi. Mais voyez, comment voulez-vous que les juifs se reconnaissent dans cette église-là? C'est pas ça leur parle pas, quoi. Il y avait un mur d'inimitié phénoménal entre les deux parties, quoi. Mais la bonne nouvelle, donc, et je vois un signe très fort avec ce Nouveau Testament livre juif, eh bien, c'est que le mur, c'est le temps où maintenant c'est abattu. Et alors, une des choses aussi qui nous ont séparés, c'est notre calendrier complètement à part, vous savez. Les fêtes bibliques, eh ben, on a choisi celles qui nous plaisaient, bon, Pâques, Pentecôte. On en a fait une bizarroïde, là, à peu près au moment d'une fête païenne, hein, ça c'est Noël. Et puis il y en a 3 qu'on a complètement laissées de côté, complètement. Celle du 7e mois, c'est-à-dire celle qui commence ce soir. Rosh Hashanah. Yom Kippour, Soukhot, l'église chrétienne, pas entendu parler. C'est quand même bizarre, quand même. Hein. On a fait notre sauce à nous, avec nos petites fêtes à nous, dérivées plus ou moins du paganisme, et puis on a mis une petite sauce chrétienne plus ou moins. Mais, et voilà. Et après, on se demande, mais pourquoi l'église, elle est faible? Pourquoi elle fait, les gens ne viennent pas au salut? Pourquoi on manque de vitamines. On manque sérieusement de vitamines. La Torah, elle est pleine de vitamines. Alors, la Torah... Alors là, c'est là que je vais peut-être passer, parce que vous avez vu que j'ai amené des choses là. Et puis bien sûr, c'est caché, parce que je voulais un petit peu... Il y a des fois où je montre tout de suite, mais là, je ne voulais pas montrer tout de suite. Donc, il y a des choses là derrière. Voilà. Alors, la Torah, peut-être passer à la suite. Oui, alors, une petite histoire. Au mois de juillet, vous verrez, il y a un lien avec ça. Au mois de juillet, nous sommes deux sœurs, on prie pour une troisième sœur qui a un problème d'image de soi. Alors, on prie, et puis, on prie pour elle, ça se passe bien, on déblaye le terrain, ça... Et la sœur avec qui j'ai prié, elle rentre chez elle, et puis, paf, son miroir se casse. Un vrai miroir, hein, je ne parle pas spirituellement, là. Concrètement, physiquement, paf, sans qu'elle l'ait touché, le miroir se casse. Alors, un miroir qui se casse, alors elle me partage ça le lendemain, disons, mon miroir se casse, je venais juste de prier, c'est bizarre quand même. Hein. Il faut dire, on avait prié pour la personne, c'était un problème d'image de soi. Et elle me raconte cette histoire du miroir, et puis, sans réfléchir, vous savez, interprétation, c'est comme le don des langues, interprétation. Le Seigneur casse l'image que tu as de toi. Voilà, c'était violent, hein. Violent. Après, quelques jours après, je ne suis pas du genre à me prélasser devant le miroir, vous voyez, pas du tout le genre. C'est pas le genre. C'est une rapide vérif, comme font les dames. Très rapide. Mais les quelques secondes, même pas une ou deux secondes, j'étais paf devant le miroir. Ah, tu es une grenade. Je te vois comme une grenade. Seigneur, hein, le Saint-Esprit qui me dit grenade. Le fruit. Quoique, le fruit. Alors, vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme ça, quand on entend des paroles comme ça, alors moi je raffole. Hein. Oh, une parole comme ça, alors ce que je fais, je plonge de la concordance, j'inonde la table avec. Ils savent la famille. La table et le livre. Qu'est-ce que dit la parole sur la grenade? Voyons. Et on trouve des choses fabuleuses. Alors, je vous dis ça parce que ce n'est pas que moi. J'ai interrogé et consulté l'Éternel. C'est une parole pour nous tous. Josué, et les visiteurs aussi, Josué, visiteur, grenade. Le Seigneur dit, vous êtes, nous sommes tous ensemble, des grenades. Ça tombe bien, parce qu'on a une belle là, devant. Vous savez, hein, que l'année dernière, en allant en Israël, les bussières ont eu à cœur de ramener cette magnifique grenade, et c'est nous. Alors, c'est quoi la grenade? Parce que quand même, il faut regarder. Hein. Alors, la grenade, c'est là que ça devient intéressant. Alors, la grenade, voyons voir. Quelqu'un, au hasard, peut m'apporter le petit panier, le petit, celui-là, là-bas, celui qui est là-bas. Quelqu'un? Oui, vas-y, Julie. Le plus petit, hein. Voilà, tu ne découvres pas, tu me gardes le privilège du scoop. Voilà. Non. Ah, oui, ouais, bah, tu caches l'autre là-dessus, ouais. Bon, bah ça va, découvre et puis tu caches l'autre, alors, ouais. Voilà, alors voilà, ça c'est des grenades. Voilà, ça va? Grenades. Alors, attends Julie, compte, il y en a combien? Elle n'est pas prof de maths ni comptable, mais c'est pas...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Voilà, alors est-ce qu'il y a il y en a 10. Il y a 10 grenades, elles viennent d'Israël. Hein. Elles viennent d'Israël. Est-ce que quelqu'un, bon par exemple un jeune au hasard, Déborah, tu peux... Alors j'aimerais que tu comptes, Déborah, viens compter. Tu vas compter... Combien il y a de petites choses, ça, des petites sortes de petites pétales là-dessus. Bien compter. Voilà. Tu viens compter. Combien il y en a?
8.
Il y en a 8. 1, 2, 3, 4. Ah non, c'est une, ça.
7.
Il y en a 7. Et normalement, elles ont 7. Donc, c'est comme une couronne, vous avez vu? C'est comme une couronne, ça, et puis il y en a 7, suite de la perfection, et puis c'est une grenade. Et donc il m'a dit, nous sommes, vous êtes, je suis une grenade. Alors quand on se regarde dans la glace et qu'on reçoit, tu es une grenade, c'est où le rapport, vous voyez? C'est où le rapport? Parce que nous, on a mentalité gréco-romaine, on voit que l'extérieur des choses, nous. Le Seigneur, il voit l'intérieur, il voit le sens profond, la signification profonde, vous voyez. C'est là quand on lit les descriptions du... Parce que la grenade, ah oui, quel est le livre quels sont les livres où on parle de grenade? Culture biblique. Comment? Cantique des Cantiques, ça tombe bien, on en a parlé tout à l'heure. Cantique des Cantiques, on parle même de verger, de grenadier. Et par rapport à la bien-aimée, quelle partie, il dit, telle partie, tu es moitié de grenade. Voilà, c'est la tempe, exactement la tempe. Cachée par le voile, c'est une moitié de grenade. Mais il n'y a pas que dans la Cantique des Cantiques qu'on parle des grenades. Il y a un autre élément très important. Grenade. Où ça? Comment? Oui, en tout cas par rapport au souverain sacrificateur, vous vous rappelez? Dans son vêtement, il y a alternance de grenades et de clochettes. Voilà. Et puis, vous avez aussi dans le temple, c'était une des décorations du temple avec les lys, vous aviez aussi des grenades. Donc ça revient dans le temple, ça revient pour les sacrificateurs et puis ça revient pour le Cantique des Cantiques. Alors, dans cette grenade, il y a des choses. Il y a 613 graines. Alors, 613, je regardais sur Internet, quelqu'un s'est amusé à compter et il disait qu'il y avait vraiment 613 graines. Dans la tradition rabbinique, ils disent qu'il y en a 613 et ça correspond aux 613 commandements de la Torah. Et ça, c'est comme une petite couronne, hein. Ils appellent ça la couronne de la Torah. Donc, la Torah, elle est pleine, elle est bourrée de graines. Les commandements, c'est des graines de vie. C'est pas des trucs pour nous embêter, genre loi romaine, vous voyez. C'est des commandements de vie, et ça veut dire que le Seigneur nous voit extrêmement féconds. Il nous voit bourrés de graines. Mais ces graines, c'est des paroles de vie en nous, par l'Esprit. Jésus habite en nous, hein. Jésus est la parole. On est bourrés, chacun de nous, et collectivement, n'en parlons pas, de paroles, de graines de vie qui sont appelées à être fécondes, vous voyez. C'est comme ça qu'il nous voit. On est plein de graines de vie. Et alors, donc il y en a 613, et en plus, elles sont très très serrées. Et ça, c'est un symbole d'abondance, mais c'est aussi un symbole d'unité. On est très très reliés et serrés les uns aux autres, et cachés, c'est ça qui est bien, on est cachés sous une écorce dure, parce que c'est franchement dur là. C'est une écorce dure, c'est une protection, et en même temps, ça parle peut-être aussi d'humilité. On est ensemble, cachés, en Christ, protection, humilité, mais bourrés de potentiel de vie. Et le Seigneur nous dit ce matin, l'Église de France, la femme stérile de l'Église de France, elle enfantera 7 fois. C'est pas moi qui dis, c'est Anne dans 2 Samuel. Alors Anne, voilà. Elle dit, l'Église de France, elle n'est plus stérile, c'est fini ça, la femme stérile de l'Église de France est appelée à enfanter 7 fois. Et ça passe par un changement profond, total de regard sur nous. Il faut que les miroirs soient cassés. Si vous voulez faire des petits actes prophétiques chez vous, allez-y, hein. Donc les miroirs sont cassés. Arrêtons de nous voir à la manière grecque avec notre apparence, mes rides, mes cheveux blancs, enfin, vous voyez, tout le bazar là, ou mes défauts, mes limites, mes concepts complètement tordus. Arrêtons. Le Seigneur a dit, tu es une grenade, point. Oui, collectivement, je pense qu'on est grenade dans beaucoup de sens, effectivement. Donc, d'ailleurs, voilà. Donc il faut s'aligner. Hein. Et c'est un temps de changement. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce soir, Rosh Hashanah commence. Donc, première, c'est la fête des trompettes. Et c'est. Alors, tous les juifs se souhaitent Shana Tova, ça veut dire bonne année. Mais Shana, ça veut dire aussi changement. Bon changement. Et après, il y a 10 grenades, ça parle des 10 jours qui nous séparent de Yom Kippour. Et les juifs, ils appellent ça les jours terribles. En fait, c'est les jours de jugement. Et la parole nous dit, jugez-vous si vous ne voulez pas être jugé. Donc c'est un temps où, à la lumière de l'esprit, il ne s'agit pas de faire de l'introspection humaine, à la lumière de l'esprit, on voit le Seigneur, et puis on enlève tout ce qui n'est pas de Dieu, surtout dans notre manière de nous voir, et on change. Et on change tout ensemble, et on dit, ensemble, Seigneur, nous sommes une église féconde, nous sommes remplis de graines de vie, et puis ça va porter du fruit. Vous voyez, ça c'est la bonne nouvelle de Rosh Hashanah, Shana Tova, bon changement, bonne année, et on va tous ensemble porter un fruit excellent, extraordinaire, magnifique pour le Seigneur. Et vous l'avez vu, hein, ça passe par la louange, l'adoration, puisque la grenade elle est remplie de semences de louanges, et ça veut dire aussi renoncement à nos mauvaises manières de voir les choses. Et acceptant, alors je ne sais pas comment on va être conduit dans 10 jours, je nous encourage à participer à Yom Kippour. Déjà, honnêtement, on va dire, Seigneur, montre-nous pendant ces 10 jours, hein, tout ce qu'on doit remettre en ordre dans nos manières de nous voir et de te voir. Et puis aussi, on va dire qu'on soit conduit à Yom Kippour, il y a 3 réunions. Et souvent à Yom Kippour, on a déjà vécu ça dans les années précédentes, c'est jamais pareil, hein, mais c'est toujours plus profond. Le Seigneur nous amène à des repentances qui ont un aspect sacerdotal. On est sacrificateur pour une église nationale, vous savez très bien. On est beaucoup plus que Josué et petite église de Gabulet-Roise. Hein. Ça a une portée nationale. Donc, je ne serais pas étonnée qu'on soit conduit peut-être à participer à ce renversement du mur d'inimitié, peut-être à changer profondément nos manières de voir les choses, de voir la Torah, de voir les commandements de Dieu, non plus comme des contraintes, des obligations, mais des sources de vie, des graines de vie. Vous voyez, il y a tout un changement profond, profond de l'église qui est amené à être là. Et dans Jean, il est dit... vous me verrez, et Jésus parle, il dit à ses disciples, vous me verrez et personne ne vous ravira votre joie. La révélation de Jésus, elle entraîne un niveau de joie extraordinaire. Ça va avec la révélation de Jésus. Que les voiles qui nous bouchent, qui nous obscurcissent la personne de Jésus soient ôtés. Et ils sont ôtés dans la révélation de l'ancienne et nouvelle alliance ensemble. Ça, c'est la bonne nouvelle de Rosh Hashanah. Alors bon, je n'ai pas amené alors, des 10 grenades, j'avais à cœur certaines personnes pour les donner. Et puis alors j'ai apporté, normalement, vous savez, à Rosh Hashanah, ça nous parle de fruits, ça nous parle de porter du fruit, ça nous parle de semences de vie, puisque ça est relié à la Torah. Et donc les juifs, vous allez sur internet, hein, pour Rosh Hashanah, ils s'offrent des corbeilles de fruits. Alors moi j'offre à l'église, de la part du Seigneur, hein, une très belle corbeille une corbeille de fruits, à vous de dire si elle est pleine. Alors, quelqu'un peut l'amener, la corbeille de fruits? Oui. Voilà, voilà. Alors, tu peux la poser. Alors, est-ce qu'il y a volontaire pour voir tout ce qu'il y a dedans? C'est des fruits propres à Rosh Hashanah. Hein. Alors, dedans, peut-être pas trop. Alors, dedans, vous avez énormément de fruits avec des graines, c'est normal, hein? Plein de fruits, plein de graines. Donc, vous avez des raisins, vous avez des dattes, il y a des noyaux, mais bon. Ah, voilà, vous avez des figues de Barbarie, vous avez des pommes. Alors, les pommes, ça se mange normalement avec du miel. Alors, le miel, il y a un pot de miel au fond, et ce miel, il vient de Chine, hein, ce cadeau de Samuel, il vient de Chine, et c'est pas hasard. Hein. Alors, soyez tous là pour le compte-rendu des Philippines, ils vous expliqueront pourquoi c'est important la Chine. Voilà, donc il y a du miel de Chine, il y a des... Ah, tu peux montrer tous les petits... Il y a plein de petits gâteaux de sésame qui viennent de Chine aussi. Sésame, c'est des graines, ça vient de Chine, ouais. Et puis il y a des bouteilles, alors c'est pas du vin, désolé les Français, c'est du jus de grenade quand même. Vous vous rappelez à Akko, le jus de grenade qu'on a goûté, c'était fabuleux. Voilà, du jus de grenade. Et puis il y a un melon aussi, parce que c'est bourré de graines aussi. Et puis j'ai amené aussi, parce qu'il y a plein de graines, tu as amené à peu près tout. Hein. Et donc pour Rosh Hashanah, ils s'offrent des corbeilles de fruits comme ça. Il y a même des pubs sur le net pour s'offrir des. En français, hein. C'est un miel chinois. C'est un miel chinois, ouais. Petite connexion avec la Chine, juste comme ça en passant. Et tu peux amener l'autre. Alors là, l'autre, c'est des figues, des figues fraîches avec des dattes. Voilà. Et tout ça, ça vient du bassin méditerranéen, sauf les choses chinoises. Turquie, Tunisie, Italie, Israël, c'est... Voilà. Voilà, voilà. Donc, bon Rosh Hashanah à tout le monde. Et, alors, Rosh Hashanah, ça parle de changement. Alors, je propose qu'on fasse un petit acte prophétique. L'acte prophétique, ce sera de manger tout ça. En disant, je suis une grenade, je suis remplie de graines de vie, je vais porter plein de fruits pour mon Dieu, je deviens une femme extrêmement féconde, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, spirituellement et tout, parce que peut-être que Laetitia... bon, bref. Voilà, et puis on va peut-être un bon coup de chauffard pour annoncer le changement aussi. Et vous savez la parole qu'a donnée Donatienne, elle parlait, Donatienne, de changer de pâturage, hein, c'est ça? Et alors, ce que je veux dire... Donc Rosh Hashanah, c'est aussi, c'est la bonne année, c'est tout ça, mais c'est aussi la fête des trompettes. Et les trompettes, c'était un temps de rassemblement, et comme j'ai dit, les graines de grenades sont étroitement serrées les unes contre les autres, et on recevait que c'est un temps où le Seigneur nous unit par son esprit, rassemblement. C'est un temps aussi de départ pour suivre l'onction, la nuée, vers des nouveaux lieux de campement. Et c'est clair qu'il y a un nouveau lieu de campement. Il faut tous qu'on se lève, on abandonne nos vieux pâturages où il n'y a plus grand-chose à manger, et on va vers la Torah, vers les messianiques, vers toutes les bonnes choses qu'ils ont pour nous. Et puis c'était aussi, bien sûr, la trompette, c'est le départ à la guerre. Mais ça, Josué, on est habitué, on fait tout le temps en guerre, ça. Voilà. Voilà. Donc il y a tous les trompettes, donc rassemblement, se lever pour aller suivre la nuée ailleurs, sur des nouveaux pâturages que le Seigneur va nous montrer, partir en guerre et proclamer des choses nouvelles. Et accessoirement, Rosh Hashanah est relié à des passages fabuleux. Joël 2, l'armée de dernier temps, c'est nous, qui vont droit son chemin. C'est relié à la chute des murs de Jéricho, donc toutes les murailles, les forteresses de la pensée française écroulées. Vous voyez, vous visionnez bien ça, moi je vois très 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 bien ça. Écroulé avec un coup de chauffard, et puis Josué disait aux gens, allez droit devant vous, hein, Josué, la chute de Jéricho, allez droit devant vous, et ça ça fait directement référence à l'armée de Joël 2, l'armée de la fin des temps, chacun va devant soi, relié à l'autre, mais avec son ordre de mission, précis, efficace, relié à Christ, et on y va tous, comme un seul homme, et puis c'est aussi relié, Rosh Hashanah, à la dernière trompette, la septième, celle qui est en bouche actuellement dans les lieux célestes. Et c'est aussi 1 Corinthiens 15, à la dernière trompette. Et puis c'est relié à Thessaloniciens, l'enlèvement. Ça c'est encore tout un sujet à voir. Mais voyez, on change, l'enlèvement c'est un changement de dimension spirituelle. On est ravis en esprit pour changer de dimension spirituelle. Alors tout ça c'est Rosh Hashanah. Donc je passe le relais aux anciens. Shana Tova, ça veut dire Shana Tova, c'est bonne année, mais c'est aussi bon changement. Shana Tova et Tova, c'est bon.
Vito, tu as ton chauffard, tu as ton instrument, et puis Albert, si tu veux bien. Et je propose simplement qu'on manifeste cette grenade et qu'on se lève tous et qu'on se serre tous les uns autour des autres. Vraiment qu'on se mette serrés les uns contre les autres. Venez tous les jeunes aussi, hein. Vous faites partie. Vite. Tout le monde. Mais je pense que Déborah et Émilie, vous pouvez descendre pour le truc. On est un corps, on veut manifester le corps. C'est vraiment ce que Dieu nous donnait déjà dans le temps de prière ce matin. Je crois que c'est vraiment important. Alors, on ne va pas se mettre en ligne. Hein. Une grenade, c'est rond. Moi, je connais. Je connais l'intérieur d'une grenade. Les grains, ils sont serrés les uns contre les autres. Ce n'est pas une ligne. Mettez-vous en rond. Mettez-vous vraiment. Mais, ouais. Et puis, les grains sont tellement serrés qu'il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'air entre. Hein. Il n'y a pas d'espace. Alors, vraiment, serrez-vous les uns contre les autres. Si tu veux. Vraiment serré. Non, là, vous êtes en train de faire une ligne. Restez groupir. Faut pas de vide. Il faut faire quelque chose de rond. Serré les uns contre les autres. Waouh! Là, on commence à voir le fruit. On commence à voir la grenade. On va juste attendre Anne. Alléluia. Et Seigneur, on veut vraiment proclamer ce bon changement. C'est un bon changement. On le proclame. Alléluia, Jésus. Alléluia. Elle est là, Anne, elle revient? Et on veut vraiment dire, mais le meilleur est devant. Hein, le meilleur, il n'est pas derrière nous, il est devant. Et le petit grain là-bas. Voilà. Regardez l'intérieur de la grenade. Vous voyez les grains comme ils sont serrés les uns contre les autres. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'air. Hein.
Énormément de vitamines dans la grenade. Énormément.
Amen. Alors, on est de la vitamine. Vous avez entendu, on est de la vitamine pour les gens du dehors. Et on va proclamer, on va vraiment souffler tous ensemble dans le chauffard. Il y en a encore un, je crois, non, qui est... Timothée, tu pourrais prendre un chauffard, toi aussi? Tim, tu peux prendre un chauffard, toi aussi? Il y a même le coquillage. Quelqu'un prend le coquillage. Allez, Vincent. Voilà. Il fait chaud ? Eh bien, tant mieux. On va y aller, on va tous souffler dans le chauffard et vraiment annoncer ce nouveau changement. Shana Tova. Shana Tova. Alléluia. Et vous savez, en faisant ça, on annonce ces choses dans les lieux célestes. On annonce ces choses dans les lieux célestes. Et l'ennemi tremble parce que le changement, lui, il le sent arriver. Je vous promets, il est en train de trembler. Les forteresses de l'ennemi sont en train d'être abattues. Amen. Amen.
Je te la souhaite.